Hello, Mortimer! Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrière virée!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure, ah, vous parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillante numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est une émission spéciale que nous vous proposons ce soir, réalisée par Christian et entièrement consacrée à Christian Demeter. Né en 1968, cet auteur complet maîtrise à la fois le scénario, le dessin et la mise en couleur. Il a notamment signé l'adaptation en BD de Shutter Island. Christian Demeter, bonsoir et merci d'être venu à notre micro. Je te propose de commencer par le début. Quelle est ta formation? Comment as-tu débuté?
J'ai pas de formation particulière. J'ai fait un moment une école de publicité qui m'a pas vraiment convenu, qui était très bien, mais qui correspondait pas finalement à ce que je cherchais. Mais par contre, j'y ai fait des rencontres importantes. Enfin, une rencontre importante. C'était Frédéric Poincelet, qui aujourd'hui est dessinateur de chez Ego Comics. Notamment, et c'est lui qui m'a un petit peu amené vers la bande dessinée, qui n'était pas du tout ma culture à la base. Moi j'avais déjà ce dessin un peu plein de tâches, donc pour moi la bande dessinée dans les années 80, je parle de ça, hein, c'était pas pour moi, c'était fallait être plus rigoureux, en tout cas dans mon esprit, il fallait être plus rigoureux, plus propre, faire moins de tâches, et puis il m'a montré que les Américains se posaient moins de questions, qu'ils faisaient une bande dessinée plus proche de la peinture, c'est un grand mot, mais enfin plus proche de la peinture, donc j'ai découvert Sienkiewicz, Ken Williams, Dave McKean, qui est anglais, mais John G. Mutt, Wyatt et compagnie, et du coup bah, ça m'a donné vachement envie de me lancer dans l'aventure, d'écrire une histoire et de la dessiner comme ça, avec un dessin qui moi me correspondait plus. Après la formation, bah, c'est sur le, depuis que tout gamin, sur le tas en quelque sorte, hein, recopier, dessiner tout le temps et voilà, bidouiller.
Parce qu'effectivement tu réalises tes albums dans un style qu'on appelle la couleur directe, c'est-à-dire que tu peins tes planches plutôt que de les réaliser au trait et de les coloriser ensuite sur un écran d'ordinateur. T'as jamais été tenté par la méthode traditionnelle?
Ah non, je peux pas, non. Je suis, comme je te disais juste avant, moi, je suis trop, je peux dire bordélique sur cette radio, c'est pas une radio religieuse. Oui, voilà, je fais trop de tâches. J'ai essayé cette semaine, j'ai fait une planche pour un projet qu'on m'a demandé, auquel on m'a demandé de participer à un truc. Je me suis dit, tiens, je vais voir si je peux travailler un peu proprement, et non. La réponse est non, il y a des tâches partout, donc... Non, je crois que la bande dessinée traditionnelle, c'est pas ma culture, hein, déjà, à la base, donc et puis c'est pas ma technique et j'en serais incapable, hélas.
Tes débuts dans la BD, tu les as fait avec le triptyque Emma, qui est paru chez un petit éditeur aujourd'hui disparu, Triskel. Quelle est la genèse de cette œuvre?
J'ai eu envie d'écrire un truc et du coup je me suis lancé, je sais plus si c'était fin 80, début 90, dans cette aventure tout seul d'Emma, où j'avais pas de scénario en fait. Je suis parti, le principe c'était un peu au jour le jour, une planche. Chaque jour une planche, sans trop savoir où j'allais. Et puis j'ai compris, bien après ce que j'ai raconté, que c'était vachement plus personnel que ça en avait l'air. Et... Par contre, c'est une expérience que je renouvellerai pas, hein, partir sans scénario comme ça, partir un peu à l'aveuglette. Je renouvellerai pas parce que c'est assez casse-gueule. J'aimerais le renouveler au niveau du plaisir artistique. C'est un grand mot, mais c'était d'une richesse... dénigrer ce que j'ai fait par la suite, mais en tout cas j'ai pas retrouvé cette espèce de d'intensité. Je pense que pour ma santé c'est pas plus mal, mais en tout cas c'était une expérience assez extraordinaire à vivre au moins une fois.
Alors toujours chez Triskel, tu as sorti ensuite les deux tomes du curé. Alors le curé, c'est l'histoire de la confrontation d'un jeune curé et d'un vieux médecin anticlérical. Une confrontation derrière laquelle se cache un secret, et ça va devenir un de tes thèmes récurrents, le mystère qui se cache derrière l'apparence des choses, le secret qui explique les actes des personnages.
le secret, c'est surtout l'identité aussi, parce que ce jeune homme, il n'a pas vraiment choisi sa voie, elle lui a été un peu imposée, il se retrouve à devoir porter des choses un peu trop lourdes pour ses épaules, il rencontre cette jeune femme, il se rend compte que sa voie qui lui a été imposée, c'est pas du tout la voie qu'il aurait choisie s'il avait eu quelques années de plus. Enfin voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est justement sans doute basé par rapport à cette rencontre avec Frédéric. Si j'avais pas rencontré Frédéric, est-ce que je ferais la bande dessinée aujourd'hui? Je ne pense pas. Et je me rends compte que des fois dans la vie, enfin ça c'est une évidence pour tout le monde, hein, mais une rencontre, un détail, certains vont avoir la chance de faire cette rencontre, d'autres n'ont pas la chance de faire cette rencontre. Je connais plein de gens qui, hélas, n'ont pas eu peut-être la chance de faire la bande rencontre, et ça me travaille beaucoup de savoir à quel point une identité s'exprime ou ne peut pas s'exprimer à quelques détails près dans la vie. Voilà, ça me travaille. Moi, dans mon sens, ça s'est, je pense, bien passé. Mais je me dis, est-ce que si j'avais pas rencontré Frédéric, je ferais quoi aujourd'hui? Je ferais peut-être de la pub, je serais pas là.
Christian Demeter, on te retrouve après une chanson de Miossec.
Je m'en vais bien avant l'heure. Je m'en vais bien avant de te trahir. Je m'en vais avant que l'on ne se laisse aller. Je m'en vais avant que l'on ne puisse en rire. Je m'en vais en gardant toute ton odeur. Je m'en vais en te regardant. Je m'en vais car l'on s'est vu voler. Je m'en vais avant que l'on ne puisse atterrir. Je m'en vais car l'on s'est tant aimé. Je m'en vais avant de te détruire. Je m'en vais pour que tu ne m'oublies jamais. Je m'en vais en te voyant sourire. Je m'en vais en croyant que tout est vrai. Je m'en vais avant de te découvrir. Je m'en vais bien avant de te décevoir. Je m'en vais bien avant de te trahir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je m'en vais pour tout recommencer. Je m'en vais pour ne jamais m'assagir. Je m'en vais car tout est si léger. Je m'en vais en te regardant dormir. Je m'en vais pour ne jamais t'oublier. Je m'en vais sans même te l'écrire. Je m'en vais en croyant que tu es vrai. Je m'en vais bien avant de te découvrir. Je m'en vais pour ne jamais te décevoir. Je m'en vais bien avant de te trahir. Je m'en vais car l'on s'est vu voler. Je m'en vais avant que l'on ne puisse atterrir. Je m'en vais car l'on s'est tant aimé. Je m'en vais bien avant de te détruire. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Jusqu'à en rire. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en rire. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en rire. Je n'ai aimé que toi.
Divan.
To the Batmobile. Let's go.
Marc Dacier.
Christian Demeter est notre invité ce soir. Après tes débuts avec le triptyque Emma et les deux tomes du curé, tu as dessiné Dusk, un polar sombre paru aux Humanoïdes Associés et dont le scénario était signé Richard Marazzano. C'est une expérience qui t'a plu ?
Oui, c'est une bonne expérience, c'est une expérience douloureuse en même temps parce que c'était une époque où moi je vivais pas du tout de la bande dessinée, donc c'était très difficile. En plus, dans ma vie privée, c'était très compliqué. Il y avait plein de choses dramatiques et compliquées qui venaient d'arriver, donc une époque douloureuse où je mangeais pas beaucoup, où l'inquiétude c'était comment payer le loyer. Du coup, on fait plein de petits boulots pour arriver à gagner un peu sa vie juste pour payer le loyer, après manger, c'est la seconde étape. Mais donc voilà, c'est une époque, je me retourne pas trop dessus parce que je la trouve plus douloureuse qu'autre chose. Maintenant, l'expérience avec Richard, bah oui, heureusement que c'est arrivé. D'une certaine façon, ça m'a mis le pied à l'étrier en tout cas.
La série Swinging London, qui comme son titre l'indique, se situait dans l'univers de la musique anglaise des 60s, s'est hélas interrompue brutalement. Alors est-ce que l'éditeur Soleil, c'était le bon pour ce genre de récit sans dragon ni guerrière sexy ?
Alors, bon, tant qu'à me fâcher complètement, fâchons-nous complètement. Naïvement, c'était celui qui nous a répondu le plus à nos exigences, à Thomas et moi, parce que j'ai écrit ça avec un ami, Thomas Benet. On avait tout un projet, ça devait être 5 histoires. Au début, ça devait être 5 albums de, on espérait, 70-80 pages. Et puis finalement, avec ça, ça s'est divisé, une histoire s'est divisée en deux. Et non, Soleil s'est avéré pas l'éditeur idéal, effectivement. Mais j'avais proposé ça à Casterman, mais je pense qu'ils n'avaient pas compris le projet. Donc, moi, naturellement, je m'étais retourné vers celui qui semblait avoir plus compris le projet, qui avait l'air ouvert à toutes les idées qu'on avait, notamment de faire un album de musique, parce qu'il y avait un faux groupe, il y avait un groupe inventé, donc moi je faisais la musique, les Queen Bees, il y a un petit album qui existe de leur musique. Donc a priori ils étaient partants pour sortir aussi éventuellement CD, et puis bon, il s'est avéré que ça a été plus compliqué que ça. Et puis ça s'est terminé en autre boudin, si je puis dire, puisqu'ils nous ont dit du jour au lendemain, on fera pas une autre histoire avec Swing London. On n'a jamais su pourquoi, comment. Voilà, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc très frustré de ne pas pouvoir continuer cette aventure, parce que je pense qu'il y avait des trucs vachement bien. Mais bon, je pense que c'est un univers intéressant. Moi, je reconnais que je l'ai bâclé, mais parce que les conditions de travail étaient, à mon sens, pas idéales. Et voilà, quand on n'est pas payé en temps en heure, moi j'estime que c'est pas idéal. Donc je l'ai peut-être un peu bâclé, mais je pense que c'était un projet qui... Oui, je pense qu'on s'est trompé sur le choix d'éditeur, ça c'est sûr.
Ouais, puis c'est dommage parce que ça te permettait aussi de t'exprimer sur une de tes passions qui est la musique.
Ouais, mais ça je continue, hein. je fais de la musique. J'ai longtemps fait de la musique avec un petit groupe de copains qui faisaient aussi de la bande dessinée. Pascal Berthaud et puis Marc-Antoine Boisdin. Cyril qui était à la batterie, qui faisait pas de BD, mais enfin qui est dessinateur, qui est peintre, qui travaille plus dans le dessin animé. Donc ça a existé en parallèle. Et puis moi je continue aujourd'hui, puisque le groupe est là, s'est arrêté, je continue à faire de la musique. Donc ça perdure, quoi. C'est pas plus mal que finalement que ça reste une passion sans notion d'argent. Moi ça me permet de la faire avec aucune retenue, quoi. Aucune, voilà, je veux pas dire que la bande dessinée, mais un peu plus, c'est devenu un métier. Donc j'ai le moins côté passionné que je peux retrouver régulièrement avec la musique.
Le sang des Valentines, paru chez Casterman, et Vers le démon, toujours paru chez Casterman, sont des one-shots, des histoires complètes en un tome. Et c'est un format que tu sembles privilégier maintenant. Est-ce que tu as abandonné l'idée de faire une série ?
La série, non, j'abandonne pas l'idée, mais c'est moins ma culture, c'est quelque chose que je maîtrise moins, je pense. En plus, avec des univers sombres et psychologiques comme j'ai, c'est moins évident. Mais en ce moment, j'ai en chantier une série que je suis en train d'écrire, comme ça. J'ai plusieurs scénars pour l'instant. J'essaye d'imbriquer le truc de façon que ça fonctionne vraiment sur une série. Parce que c'est quand même particulier, la série. Moi, c'est un truc que j'apprends en le faisant. C'est très particulier. Donc, j'essaie de bétonner le truc de telle façon que, voilà, je sais que si je m'y lance, c'est pour plusieurs histoires. Et en plus, j'ai des idées qui m'envoient encore des trucs encore plus compliqués avec cette série. Donc, pour l'instant, je suis pas sûr de la faire un jour, mais j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien pas parce que c'est une série, mais c'est parce que c'est vraiment une histoire qui pour moi suivrait sur plusieurs années. Voilà, c'est une histoire qui s'y prêterait particulièrement. Mais le one shot, je trouve ça, ouais, pour moi, c'est l'idéal. Voilà, c'est mais le one shot de 80, 100 pages, voilà. en dessous de 85 pages, j'ai pas assez de place pour m'exprimer, ça fait un peu prétentieux, mais je me sens à l'étroit en dessous de ça.
Christian Demeter, tu restes avec nous, on continue notre entretien après une chanson de Tom Waits.
That king was whittled from the bone of Cain, with a little drop of poison in her red, red blood. She need a way to turn around the bend. She said, I wanna walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I wanna look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has sinned. You wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. Cooper told Molly the whole block's gone. They're down for jewelry, money and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, oh yeah.
Monsieur, s'il vous plaît, quelques mots, je vous prie.
L'interview.
Nous recevons ce soir un invité prestigieux, Christian Demeter. À la fois scénariste, dessinateur et coloriste, cet auteur complet a adapté en bande dessinée deux romans, Figurec et Shutter Island. Christian Demeter, qu'est-ce qui t'avait plu dans le roman de Fabrice Caro, Figurec, et qu'en as-tu gardé ?
Alors, c'est une proposition de Casterman qui avait reçu ça sur leur bureau, on va dire. C'est mon éditrice qui m'a dit, écoute, on a un scénario ou un roman, et on te verrait bien là-dedans, tout ça. Donc, moi, je suis plutôt prudent, je dis oui, je vais lire, et puis je vais voir. J'avoue, j'ai beaucoup aimé l'esprit, le jeu qu'il y a dans ce roman, le jeu sur les mots, sur les situations, sur l'identité, encore une fois, la question d'identité qui est très présente. Mon inquiétude, comme il y avait énormément de scènes de restaurants, mon inquiétude c'était que de rencontrer l'auteur et puis que ça ne le fasse pas du tout, que ce soit plutôt quelqu'un un peu, je voyais un peu une sorte de grand costaud qui parle beaucoup de repas, donc j'avais un peu peur de m'ennuyer. Et en fait pas du tout, c'est un jeune homme passionné de musique, avec un look un peu SDF comme moi je pouvais avoir aussi, et on s'est croisé avant un rendez-vous chez Casterman et on s'est plus tout de suite. Ça fait un peu film romantique américain, mais quand je l'ai vu passer comme ça dans le c'était dehors, c'était pas dans les locaux, mais enfin bref, je dis oh, ça serait bien que ce soit lui parce qu'il m'a l'air bien sympathique. Et puis on s'est très vite rendu compte qu'on était au même rendez-vous et puis on s'est parlé tout de suite, on a parlé musique tout de suite comme si on se connaissait depuis 20 ans, il m'a donné son CD, etc. Ça confirmait que humainement c'était évident que cette association pouvait se faire en tout cas.
Alors l'adaptation de Shutter Island, le roman de Denis Lehane, t'a-t-elle été proposée? Elle t'a été aussi proposée par l'éditeur, non, Casterman? L'idée vient pas de toi?
Pas du tout. La proposition c'était de faire une adaptation de Rivage. Ça, c'est un projet qu'ils avaient depuis pas mal d'années chez Casterman. Ils m'en avaient déjà parlé. Laetitia, mon éditrice, m'en avait déjà parlé depuis je ne sais pas combien d'années. Et puis un jour ça s'est concrétisé et puis c'était enclenché. Il y avait déjà des bouquins qui étaient en route, je ne sais plus lesquels, mais enfin les barus, l'axe et tout ça, je pense qu'ils étaient déjà un peu enclenchés. Et elle a insisté, entre guillemets, sur le fait qu'ils aimeraient bien que j'en fasse un. Et moi, par contre, je lis pas mal de romans, mais je ne sais jamais chez quel éditeur c'est. Je ne fais pas attention à ça. Donc j'ai dit, moi, il y a un bouquin qui m'a marqué ces dernières années, c'est Shutter Island. Après, est-ce que c'est chez Rivage? J'en ai aucune idée. En même temps, si j'avais réfléchi 5 minutes, oui, en me souvenant de la couverture, j'aurais dû me dire que c'était bien chez Rivage. Donc le temps de confirmer que les droits étaient libres, en tout cas qu'ils nous les cédaient, voilà. Pour moi, c'était une évidence que c'était un bouquin que je voulais à tout prix faire. En fait, c'était un truc, le principe de Shutter Island, que je ne vais pas révéler, bien sûr, c'est un truc sur lequel je travaillais moi aussi, de mon côté, j'essayais de trouver une histoire. Mais j'étais loin de faire un bouquin comme Shutter Island. Et quand j'ai lu Shutter Island, donc, je ne sais pas quand il est sorti, 2003, 2004, par là, je ne sais plus, je me suis dit, waouh, génial. Il a fait l'idée que moi je cherchais, mais alors j'aurais été capable de faire ça, et lui, il a fait le bouquin parfait. Donc, j'étais super content d'avoir lu un bouquin comme ça, mais très frustré de me dire, l'idée, je peux me l'arranger, jamais je pourrais faire ça, parce que pas le talent, hein, et puis parce que ça a déjà été fait, et tellement bien que... Donc ce qui m'est arrivé, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux, c'était de l'adapter, donc super content d'avoir pu adapter ce truc-là. Le seul crainte que j'avais, c'était le rater, quoi, le foirer. Bon, apparemment, Denis Slien est très content, tout le monde est très content, donc c'est qu'a priori, j'ai pas dû me tromper.
Là, tu l'as rencontré, Denis Slien, tu m'as dit que tu l'as croisé.
Ouais, du coup, il est venu faire la promotion de son dernier bouquin, Pays à l'aube, si je dis pas de bêtises, que j'ai adoré, et donc il était venu pour la promotion sur Paris, et c'est Rivage qui avait organisé un petit rendez-vous comme ça, il y avait aussi Loustal qui était là, et c'était chouette, j'étais content de le rencontrer. J'avais l'impression, je suis pas un fan en général, mais là j'avais l'impression de rencontrer vraiment un écrivain important, en tout cas, qui pour moi compte beaucoup, et j'étais super content d'être dans la même pièce.
D'ailleurs, Un pays à l'aube, c'est un roman qui est très ambitieux, mais tu ferais une belle adaptation en BD de ça.
Alors là, il me ferait un bouquin de... pas de 120 pages, il me ferait 300 pages, parce que c'est un roman fleuve. On est au-delà des codes du polar, enfin, de toute façon, il n'est jamais vraiment tout à fait dans le polar, sauf peut-être dans sa série Gennaro Kenzie, et encore. Là, c'est vraiment un roman noir, mais en même temps, un roman américain, un peu une saga, un truc un peu fleuve, et c'est sublime. Par contre, je sais qu'il y a un film qui est en chantier depuis quasiment le départ, comme il dit, maintenant, il pourrait écrire le bottin, ça serait signé au cinéma à Hollywood. Donc, j'ai su que le film était enclenché. Bon, le cinéma, ça peut prendre beaucoup de temps, mais comme j'avais vécu une, entre guillemets, compétition, c'est pas le terme, je trouve pas le mot, mais quand j'ai su que je faisais Shutter Island, au bout de quelques 20-30 planches, j'ai su qu'il y avait Scorsese qui faisait ce film, et sur le coup, je me suis dit, oh là là. Après, je me suis dit, chacun fait son truc, moi, la BD va sortir dans son petit milieu, voilà. Mais j'avais un petit peu peur des comparaisons. Puis après, quand on est dans le projet, on fait son projet, mais quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, oh, mince.
Faites-moi un topo sur cette institution.
C'est seulement que c'est un hôpital psychiatrique.
Pour fous dangereux.
Nous ne prenons que les patients les plus dangereux, les plus gravement atteints. Ceux dont aucun autre hôpital ne peut s'occuper. Je vous informe que vous devez nous remettre vos armes.
Mais nous sommes Marshall des États-Unis.
Pendant votre séjour, vous suivrez le protocole. Messieurs, bienvenue à Shutter Island.
Marshall Daniels ?
Docteur. Donc, cette prisonnière, Rachel Solando, s'est enfuie en séquence ces dernières 24 heures.
Elle est considérée comme étant dangereuse ?
On peut dire ça.
On est à 18 km de la côte et l'eau est glacée.
On ignore comment elle est sortie de sa chambre.
On est repassé à minuit pendant la ronde et elle n'était plus là.
Elle s'est comme volatilisée à travers la muraille.
Beaucoup de gens connaissent cet endroit, mais personne ne veut en parler, vous voyez ? C'est à croire qu'ils ont peur.
Tu comprends pas, t'es un rat dans un labyrinthe.
Qui est au courant ? Tout le monde. Les infirmières ? Le personnel, c'est impossible. Tout le monde. Vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas vous laisser partir.
Où allez-vous comme ça?
On retrouve Christian Demeter après une chanson d'Alain Bachung pour la dernière partie de notre entretien.
Je t'ai manqué. Pourquoi tu me visais? Tous nos échanges coulaient de source, tous nos mélanges cotés en bourse. Tout est brutal, beauté en touche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. je t'ai manqué. Pourquoi tu me visais? Tout est extrême, limite et cône glacée. Tout est idem, les vitrines, les pôles opposés. Dans les étoiles ou sous la douche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Pourquoi tu me disais? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait rien, si l'on construisait les phrases à l'envers, ou si l'on soulevait de main, qui serait l'adversaire? Entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien? Je t'ai manqué, pourquoi tu me lâchais? À l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Si l'on suivait les voies ferroviaires, qui aurait le pied marin? Si l'on sifflait les fonds de théière, ou si l'on ne sifflait plus, qui serait l'adversaire? Entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne se disait plus rien? Je t'ai manqué, pourquoi tu me disais? Pourquoi tu me visais?
Captivant, 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 captivant.
Mille milliards de mille millions de mille chevaux.
Marc Dacier.
Christian Demeter est notre invité ce soir. En 2009, il signe une brillante adaptation en bande dessinée chez Casterman du roman de Dennis Lee Hane, Shutter Island. Christian Demeter, tu nous as révélé tout à l'heure que tu avais appris la mise en production du film de Martin Scorsese adapté du même roman alors que tu venais à peine de commencer ton album. As-tu aimé Shutter Island, le film ?
Ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai retrouvé plein de trucs que j'ai dû faire ça en bande dessinée, mais je suis pas américain, j'ai jamais vu Boston, j'ai jamais vu encore moins la baie de Boston, j'ai pas vécu les années 50 dans les États-Unis, donc il y avait plein de trucs sur le plan esthétique que j'avais que par le biais du cinéma, des films noir et blanc que j'aime beaucoup, hein, mais c'est le cinéma qui parle d'une certaine époque. Est-ce que, bon, moi j'avais peur de me tromper complètement sur l'ambiance, sur les lieux. Quand j'ai vu le film, ça m'a un peu rassuré, je me suis dit qu'on n'est pas si loin que ça, mais après sur les choix par rapport au scénario, je suis content d'avoir fait ça en bande dessinée parce que du coup ça oblige, on a beaucoup moins de pages bien sûr, donc ça oblige à sélectionner beaucoup les scènes et je trouve que le cinéma, le film, je trouve que bon, ils sont allés dans les voies que moi je serais pas allé, même si j'avais dû faire un film, je pense que j'ai des choix que j'aurais pas fait, donc je suis pas convaincu à 100%, mais encore une fois je connais tellement l'histoire par cœur que c'est une histoire qui est vachement émotive quoi. On se la prend en pleine gueule une première fois, après quand on la connaît, est-ce que on va la recevoir de la même façon? Je pense pas, donc je la connais trop par cœur pour avoir un avis vraiment vraiment objectif, mais oui, c'est un bon film, mais qui m'a pas plus passionné que ça.
Après Shutter Island, tu es resté dans les années 50 et aux États-Unis avec l'album Marilyn de l'autre côté du miroir. Alors, est-ce que tu as pris goût à cette période de l'histoire américaine ?
Oh, c'est le hasard complet. Moi, je suis pas du tout historien, donc je fais très attention à pas m'embarquer dans des trucs que je pourrais pas maîtriser. En fait, Marilyn, pour parler de la genèse, je sais pas si c'est très intéressant, mais j'avais plusieurs projets qui sont en fait télescopés, qui ont donné Marilyn. En fait, j'avais un projet de peinture. Voilà, je savais pas trop, parce que moi la peinture c'est un truc qui j'aimerais, hein, j'en ai fait, mais c'est pas vraiment la peinture, j'ai fait des toiles. J'aimerais un jour avoir le temps d'y retourner, mais je suis pas sûr d'avoir grand chose à y raconter. Donc voilà, j'ai voulu faire un test un jour, et du coup je m'étais fixé un peu comme premier but d'avoir un thème un peu de base, et c'était, je m'étais fixé les mythes antiques, mais en rapport avec les mythes modernes. Donc une réflexion un peu bébête comme ça, mais je suis parti là-dessus. Du coup, je me suis retrouvé très vite avec Hollywood, les acteurs et notamment Marilyn. Et en même temps, j'avais écrit un scénario comme ça qui parlait du deuil. Et puis, je sais pas comment ça s'est fait, mais enfin, ça s'est télescopé. Et les deux sont rentrés. C'était une évidence que les deux pouvaient fonctionner ensemble, Marilyn avec ce scénario. Du coup, voilà, ça a donné cet objet identifié plus ou moins. Ou voilà, quand j'ai rendu ça à mon éditeur, je pensais que j'allais me retrouver avec une fin de non-recevoir. Je pensais que j'avais livré un truc complètement barré, complètement étrange, et j'étais très étonné de l'accueil, y compris auprès de la critique. Je pensais que j'allais en prendre plein les dents, et ça a fait l'unanimité. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que les États-Unis avaient répondu à une drogue sur la France à ce moment-là, une drogue euphorisante, où tous les gens, enfin les quelques personnes qui l'ont lu, ou voilà, ils l'ont apprécié, ou ont compris ce que je voulais faire, donc je suis très surpris, mais agréablement.
Un autre point commun entre Shutter Island et Marilyn de l'autre côté du miroir, la réalité n'est pas ce que l'on croit.
Oui, c'est vrai, mais apparemment c'est des trucs qui doivent me travailler. Non, mais je me méfie toujours des apparences. J'ai eu quelques expériences comme ça dans ma vie où je sais pas si j'ai peut-être déjà raconté, peut-être me répéter, en tout cas pas à cette antenne, mais dans l'absolu. J'avais rencontré, dans l'époque où je tournais beaucoup la nuit, j'avais rencontré un personnage très étrange, un type un peu exubérant, un peu fatigant, qui me saoulait, qui faisait le show en permanence, et pour lequel j'avais une opinion un peu négative, j'avoue. Et puis un jour, j'ai appris son parcours, qui était assez dramatique, quelqu'un qui avait, qui était interne des hôpitaux de Paris, et qui avait reçu un coup de fil. J'espère que je n'en raconte pas trop, s'il m'entend, j'espère qu'il prendra pas mal, mais bon. La police l'avait appelé pour dire, on lui avait dit comme ça, brut, il faudrait venir à la morgue reconnaître le corps de votre fille et votre femme. Et tout d'un coup, je me suis dit, oui, ce type sur lequel j'avais une opinion comme ça un peu facile, je comprenais un peu plus son parcours et je comprenais peut-être un peu plus son personnage. Je me disais, voilà, c'est un truc qui doit me travailler depuis ce temps-là. J'ai culpabilisé beaucoup d'avoir fait un raccourci sur juste un aspect comme ça extérieur et pas avoir pris le temps de creuser un peu plus. Alors on n'a pas toujours le temps de faire ça, on est obligé d'avoir... Mais voilà, sur ce cas-là, je me suis dit, j'étais vraiment un imbécile. Et puis bon, ça ne change rien, ça se dit, il était fatigant aussi. Hein. Mais voilà, je comprenais un peu plus le pourquoi en tout cas. Et c'est ce que j'essaie souvent de comprendre ou de chercher dans mes personnages, les montrer sous un jour, essayer de faire comprendre à un moment que ce jour a été éclairé d'une certaine façon, à un certain moment peut-être que ça a dévié, voilà.
Christian Demeter, merci infiniment d'avoir été notre invité exceptionnel ce soir.
Merci beaucoup, mais je tiens à dire, la vie est belle quand même, ne déprimez pas.
Cette émission a été réalisée par Christian. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz interprétées par le Québécois Guy Nadon et le band du Roi du Drum. Bonne soirée à toutes et à tous et à la semaine prochaine.